TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. C'est un plaisir pour nous cette semaine de recevoir un beau couple, les Belles. C'est bon, il y en a qui viennent de la comprendre. Donc bonjour à vous, bonjour Rémi, bonjour Emmanuel.
Bonjour Annabelle.
On bonjour, est contente de vous recevoir. Rémi, on a l'habitude de te voir régulièrement derrière les caméras, mais toi Emmanuel, c'est un petit peu plus rare.
Je crois que c'est une première.
Hein. C'est une première,
en
carrément.
Voilà, une fois donc, en Israël, voilà.
Mais bon, et ben la deuxième fois sur EMCI. En tout cas, nous sommes vraiment heureuses de te recevoir, Emmanuel. On pense que tu as des belles choses à partager. Et vous êtes ensemble aujourd'hui et toute cette semaine avec nous. On va refaire un petit peu le tour. On va essayer, en tout cas, de votre parcours, parce que ça fait 28 ans, bientôt 29, que vous êtes mariés. Oui, et les gens se disent, mais pourtant, ils ont l'air tellement jeunes.
Ah, merci.
Mais si vous saviez.
Ah, si vous saviez. Ah, aussi, quand même.
Donc, on va pouvoir vous découvrir et puis parler du couple. On va vraiment parler du couple, de vos expériences, comment le Seigneur vous a unis et ce que vous avez appris depuis ces 28, presque 29 ans de mariage. Donc, je pense que ça va être une semaine riche.
Tout à fait,
et toi, Rémi, ça te fait quoi d'accompagner ta femme sur un plateau télé?
Moi, je suis très honorée.
Oh, vous allez découvrir que Rémi est totalement fou d'amour pour sa femme tout au long de cette semaine. Bah, tu vois, t'as pas l'occasion d'exprimer tout ton romantisme et ton amour d'habitude dans les émissions.
Ce sera une première, effectivement. Je suis plutôt à prêcher l'évangile devant les caméras. Et là, on va partager l'essence.
Oh waouh.
Donc, ce sera peut-être même de bons conseils pour les messieurs qui vont
tout à fait
écouter l'émission.
Oui, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a plusieurs qui regardent l'émission. Qu'est-ce que je disais? Oui, bah juste, est-ce que vous pourriez vous présenter peut-être un petit peu, parce que ça fait longtemps que vous êtes aussi dans le ministère. On te connaît, Rémi, à cause de ton ministère d'évangéliste. Tu as été un petit peu partout dans le monde. Tu as un ministère qui est accompagné de signes, de miracles et de prodiges. Donc c'est formidable. Si tu veux peut-être vous présenter ou te présenter un petit peu.
Tu l'as dit, je suis évangéliste, connu un petit peu d'un point de vue médiatique en raison de la grâce de Dieu qui se manifeste par des signes prodiges, des guérisons, des campagnes d'évangélisation et le grand travail qu'on a fait pendant des années avec les églises dans le monde entier. Voilà, mais aujourd'hui, j'aurais plus envie de dire que j'ai l'honneur d'être marié à cette merveilleuse épouse que le Seigneur m'a confiée, à laquelle il m'a donné aussi. On s'est donné l'un à l'autre et je vais laisser Emmanuel se présenter.
Hein. Toi, Emmanuel, tu es directrice et fondatrice, c'est ça, de l'école, d'une école chrétienne,
d'une école chrétienne région parisienne, donc cofondatrice, hein, donc avec Rémi et un autre couple d'amis.
D'accord.
Et donc je suis directrice depuis 3 ou 4 ans, je crois, mais ça fait bientôt 16 ou 17 ans que j'enseigne dans cette école, depuis en fait son démarrage en 2003.
Ah, oh, wow.
Voilà, oui. Et donc, moi, je m'appelle Emmanuel, comme tu l'as dit, voilà. Je remercie mes parents de m'avoir donné ce beau prénom. Et donc, nous avons 3 enfants, hein, donc Angeline, qui a 27 ans, qui vient de faire 27 ans, Mathieu, qui a 24, et Nathan, notre petit dernier, qui a 19 quand même. Voilà.
Ah oui, c'est des grands enfants.
C'est des grands, mais c'est quand même notre petit dernier. Voilà, on a encore envie de coucouner. Hein.
Tu veux leur faire des bisous?
Mes 3 enfants, voilà, qui sont notre récompense, en fait. Hein. Les enfants sont une récompense. Hein.
Ouais. On aura l'occasion dans la semaine de parler un peu plus de l'école chrétienne, comment c'est né, comment ce projet a pris forme et comment il a évolué, parce qu'il a vraiment évolué au cours des années.
Complètement, oui.
Et aujourd'hui, juste pour informer les gens, c'est une école primaire et un collège qui va jusqu'à la quatrième. Et l'école s'appelle
Mathurin-Cordier,
oui. Et c'est dans les Yvelines.
Dans les Yvelines, oui.
Donc on en parlera un peu plus dans la semaine.
Tout à fait.
Mais on voulait parler, pour commencer cette semaine, de votre rencontre, votre rencontre avec le Seigneur et votre rencontre aussi à vous, parce que vos rencontres sont assez atypique, mais passionnante. Donc, comment vous êtes-vous rencontrés? Toi, Emmanuel, tu venais d'un petit village, un tout petit village
tout
perdu
petit village.
Au fond de la France.
C'est un tout petit village perdu dans le Haut-Doubs. Donc, c'est à côté de la Suisse. Donc, il y a un peu de neige aussi chez nous. Il n'y en a pas qu'au Canada. Donc, j'ai connu la neige. Et donc, un petit village vraiment, on va dire, 100 habitants avec les vaches et les poules, avec rien d'autre, en fait, que des maisons, une église et puis un petit café. Pas de boulangerie, pas d'arrêt de bus, pas de cabine téléphonique, rien, en fait. Wow. Voilà.
Donc, j'ai... pas d'Internet à l'époque.
Et pas d'Internet et pas de portable. Voilà. Et oui. Et donc, j'ai grandi dans une famille vraiment unie, j'ai reçu une bonne éducation, mes parents voilà, étaient comme la plupart, hein, en tout cas des Français catholiques, hein, de souche, mm-hmm. Donc voilà, j'ai fait toute mon enfance le catéchisme, donc j'allais à l'église, hein, du village, qui à l'époque c'était très intégriste. Donc la messe était en latin, donc je comprenais pas grand-chose, mais bon, voilà, j'y allais parce que de toute façon, c'est la tradition, mm-hmm. C'était comme ça, et puis
il y avait rien d'autre à faire.
Il y avait rien d'autre à faire, voilà. De toute façon, voilà.
Voilà l'église, rien à
faire. Voilà, c'était. Donc j'ai une enfance vraiment tranquille, vraiment. Je me suis sentie vraiment aimée, mais arrivée dans l'adolescence, je me suis beaucoup ennuyée parce que.
On comprend.
Voilà, beaucoup de mes amis en fait du village étaient issus de familles d'agriculteurs, donc ils étaient très occupés. Il y a toujours beaucoup de choses à faire, hein, dans la maison, dans les champs, s'occuper des bêtes. Donc les enfants sont beaucoup à l'ouvrage, mais moi, mes parents étaient travaillés à la ville, donc moi, il n'y avait pas grand-chose à faire à part mes devoirs, aider ma maman aux tâches ménagères. Voilà, c'était vite. Donc j'ai des souvenirs d'avoir eu des étés très longs, les vacances où je m'ennuyais beaucoup. Je rêvais évidemment d'autres choses, un peu d'un prince charmant. Je lisais beaucoup dans l'adolescence ces romans Harlequin. Je ne sais pas si vous
voyez. Ah oui.
Voilà. Donc, qui ne sont pas une bonne nourriture, franchement. Mais bon, on s'ébatte comme on peut. Voilà. Donc, effectivement, et j'imaginais qu'un jour, ben, il y allait bien quelque chose qui allait se passer quand même. Et puis. Donc, dans ce village, il y avait des gîtes. Heureusement, on avait quelques familles d'agriculteurs qui avaient des gîtes et des familles venaient en vacances de tout coin de France. Et puis un jour, eh bien, il y a un groupe de jeunes qui est venu dans ce gîte pour une semaine au mois d'août. Et je me souviens, j'ai une amie qui vient me voir un dimanche après-midi. Mes parents étaient partis en week-end, donc j'étais seule. Et elle me dit, écoute, ce matin, à la sortie de la messe, il y avait des jeunes, ils étaient un peu bizarres. Ils avaient des guitares et ils chantaient à la sortie de l'église. Donc, ils sont bizarres, mais ils sont sympas. Et ils nous ont invités à passer les voir au gîte pour prendre un petit café avec eux. Donc, moi, j'avais rien à faire, hein. Donc, je dis, bah, pourquoi pas, je vais venir vous retrouver. Donc, je suis partie, donc, dans ce gîte. Et effectivement. Je venais d'avoir 18 ans. Okay. Ouais, je venais d'avoir 18 ans et donc, j'ai découvert un groupe de jeunes. Alors, il y avait un peu toutes sortes, hein, un peu des huluberlus. Voilà, ils venaient tous de la région parisienne.
Ta copine, hein.
Oui, voilà, c'est ça. Et quand même, dans le lot, il y en avait quand même deux ou trois qui étaient bien la tête ancrée, voilà, sur les épaules, bien solide, équilibré. Et puis surtout qui, je l'ai compris plus tard, hein, mais qui aimait le Seigneur, en fait. Et vraiment, dès que je les ai rencontrés, j'ai commencé presque à me nourrir de ce que je recevais d'eux. Du coup, pendant une semaine, dès que j'avais parce que je travaillais, pour me faire un peu d'argent l'été dans un hospice pour les personnes âgées. Et dès que j'avais fini mes journées, j'allais directement les voir. Et on a même passé des nuits blanches à parler, à faire des jeux ensemble. Et vraiment, j'avais l'impression de naître, en fait, de goûter à quelque chose.
Et là, Rémi, est-ce que Rémi était là ?
Non, Rémi n'était pas là, mais j'entendais dans les conversations. « Ah ben Rémi arrive vendredi !» Ah ben c'est Rémi, hein, faut aller le chercher à la gare vendredi, hein. Rémi. Je me dis, mais qui c'est ce Rémi qui vient? Bon voilà, je m'attendais pas vraiment à, voilà, je m'attendais à rien finalement. Et puis ce fameux vendredi est arrivé où Rémi est arrivé donc au gîte et là je dis, mais qu'est-ce que c'est que cet huluberlu?
Elle était pire que les autres.
Ah ben. Il est l'accoutrement, le langage, enfin, mon pauvre chéri, tout était. J'avais voilà un autre monde. Voilà, on va dire ça comme ça.
J'avais besoin d'aide. J'avais besoin d'amour.
Quelque chose qui m'a beaucoup touchée. En fait, quand je l'ai vu, il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est ses yeux, en fait. Mm. J'ai toujours vu dans ses yeux quelque chose, une lumière. Alors, il n'a pas les beaux yeux bleus, hein, le blond yeux bleus, ce n'était pas lui, mais il y avait quelque chose dans ses yeux quand même. Il y avait une lumière qui m'a vraiment percutée. Mm. Mais tout l'emballage, on va dire, si je peux me parler comme ça, était pas du tout ce que j'attendais. J'ai pas eu un coup de foudre, non.
Et toi, Rémi?
Ah, moi, si, si. Moi.
De ton point de vue, raconte-nous ton histoire à toi.
Eh bien, pour arriver à l'endroit où on se trouve à l'instant, je vais faire un flashback sur une enfance torturée dans la région parisienne, une famille éclatée, beaucoup de souffrance à la maison. Et très rapidement, j'ai été en contact avec la violence de rue et au collège. Et au départ, j'étais un petit garçon très gentil, mais il a fallu que je devienne un loup au milieu des loups pour pouvoir me défendre. Et j'ai ce souvenir marqué d'un jour où je suis carrément allé à l'école avec un couteau dans mes chaussettes pour me défendre contre les choses qui se passaient, les agressions permanentes. Et j'ai appris à me battre, en fin de compte, à devenir en fait plus vilain que les autres. Et j'arrivais à toucher le haut des portes avec mon pied droit, et il fallait pas le prendre dans la figure, parce que c'était devenu une arme. Et dans ce pied, il y avait toute la haine que j'avais, la haine de vivre, en fait. Je comprenais pas pourquoi j'existais, et j'avais juste pas envie d'aimer personne, et encore même pas moi-même, en fait. Donc j'ai commencé à me droguer, j'ai touché un peu à toutes les drogues, tout ça, et c'était la descente aux enfers, et accompagné d'une musique consacrée au diable, et j'écrivais même des poèmes à Lucifer. Wow. Mais je croyais ni en Dieu ni en diable, hein. J'étais dans la culture hard rock, heavy metal, je rentrais dans ces choses-là, quoi. Il y a eu l'appel pour faire le service militaire à l'époque, qui était encore obligatoire. Et je me suis retrouvé, en fin de compte, pour faire plus vite, dans la chambre avec un caporal-chef qui était engagé, mais qui était aussi engagé dans la foi chrétienne. Mais je ne le savais pas au départ, mais il inspirait du respect, cet homme-là. Et alors que j'étais tout le temps dans les bagarres, dès qu'il y avait une bagarre dans la caserne, le Rémi était dedans, clair et net. Il fallait toujours qu'il y ait une affaire, quoi. Mais cet homme-là, qui était dans notre chambre, je le respectais. Il émanait quelque chose de j'arrivais pas à mettre des mots dessus, mais et puis un beau jour il y a un livre qui a passé entre les mains qui était le titre c'est Amityville ou la maison du diable, et on en a fait un film dans les années 80, je crois, c'était sorti, et c'est l'histoire d'une famille qui a été aux prises avec des puissances occultes. C'est un vrai témoignage, quoi, avec des manifestations, tout ça, et ce livre était conçu de façon à vous conduire dans le spiritisme et dans les pratiques occultes. Il y avait même un moment donné même un témoignage d'un prêtre qui encourageait à parler avec les morts, tu sais, des choses comme ça, quoi. Donc ça paraissait tellement anodin, et puis ça me correspondait bien, parce que j'étais très attiré par ce qui était occulte. Et donc j'ai dit dans la chambre, j'ai dit allez gars, venez, on va faire une séance de spiritisme. Et là ce monsieur, ce caporal-chef, s'est révélé, en fait. Il a fait son coming out et il a dit surtout faites pas ça, si vous touchez à ces choses là vous allez avoir des graves problèmes, Dieu déteste ces choses, dans la Bible c'est interdit, tout ça. Et là, quand il a commencé à parler de Jésus, j'ai commencé à me moquer de lui. J'avais plus aucun respect. Il pouvait même avoir été gradé et tout. J'en avais rien à faire. J'ai commencé à lui rentrer dedans. Et en fait, toutes les choses qui étaient mauvaises en moi commençaient à sortir, quoi. Et pendant des semaines, j'ai eu un conflit avec ce gars-là. Et puis un soir, à force de discussion, où j'avais plus tellement d'arguments, et lui il avait cet argument qu'il avait eu une rencontre personnelle avec le Christ, un soir j'ai fait mon Nicodème, là, j'étais le voir, je dis, j'avais aucun copain qui me voyait, je dis, ton Jésus, on peut le rencontrer comment? Et là, c'était la première fois que j'ai fait une rencontre personnelle avec le sourire banane des évangélistes, là. Qu'est-ce qu'il a ? Il était tellement heureux, il a sorti sa Bible, Jean 3,16, il a commencé à me prêcher la parole, tu sais, vraiment. Ah ouais, il attendait ça, je pense qu'il devait prier aussi, et il m'a annoncé la bonne nouvelle, et il y a eu trois versets qui sont sortis. Bon, je vais aller plus rapidement, mais un des versets, il dit, si tu invoques le nom de Jésus, tu seras sauvé, quoi. Et il a commencé à m'expliquer comment avoir une rencontre avec Jésus, et donc de son lit superposé, là, comme on a à l'armée, j'ai traversé la chambre, j'étais vers mon placard. Et ces trois quatre pas ont été trois quatre pas dans le salut, en fait, parce que j'ai invoqué le nom de Jésus. J'ai commencé à parler à Jésus, ce Jésus que je connaissais pas, et au moment où j'ai invoqué le nom de Jésus, en fait, il y a une présence qui a rempli cette pièce. En fait, cette présence était là depuis très très longtemps. C'est moi qui n'étais pas là, et en fait, je suis né de nouveau au moment où j'ai invoqué ce nom. Et là, waouh, tout a été bouleversé en moi, et j'ai compris que Dieu existait vraiment. Et donc, dès le lendemain, j'ai commencé à changer de comportement et à marcher avec une autre dimension dans ma vie, quoi. Donc, après, je suis rentré de l'armée. J'espérais que Dieu habite à Perpignan parce qu'en fait, j'aimais beaucoup le péché. Et c'était un problème pour moi d'arrêter de pécher. Donc, j'ai pensé que Dieu habitait Perpignan et qu'au nord de la France, il n'y avait pas de Dieu, en fait. Et je suis retourné donc chez mes parents à refaire la même vie et à commencer à retoucher à l'héroïne, tout ça, etc. Et toutes les choses qu'on fait quand on n'est pas en Jésus-Christ, quoi. Et qu'on sort plus ou moins de la rue. Et j'ai rencontré encore des chrétiens à ce moment-là qui m'ont encore asséné l'évangile. Et c'est une période où j'ai fait un songe particulier, où j'ai été averti surnaturellement qu'il allait y avoir une descente de police. Et parce que j'ai cru ce songe, j'ai échappé en fait à cette descente de police. Et j'ai basculé dans le royaume de Dieu. Là, j'ai commencé à fréquenter des chrétiens qui ont prié pour moi. J'ai eu ce qu'on appelle des délivrances. Ma vie a été transformée. J'ai commencé à chercher Dieu avec une profondeur. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai été un peu rattrapé avec des catholiques qui m'ont aidé d'une certaine manière et en même temps qui m'ont poussé dans une certaine façon de voir l'évangile.
Et après, ouais. Tu as vraiment rencontré le Seigneur et puis
ouais, ça a été
baladé un petit peu dans différents
exactement.
Mouvements. Parce que quand Emmanuel te voit...
Quand je vais, j'étais moine, en fait.
Ben voilà.
C'est là où j'allais en venir. C'est qu'en fait, Rémi, le vendredi, il arrivait d'un monastère. En fait. Et je m'étais converti au catholicisme et j'étais pire que le roi. Hein. Franchement, j'étais devenu un extrémiste du catholicisme. Et j'étais tellement passionné pour Dieu que je voulais tout faire comme je pensais qu'il fallait le faire, quoi. Donc effectivement, j'étais accroché.
C'est embêtant du coup d'avoir un coup de foudre.
Ça a été terrible dans ma tête.
Parce que t'étais moine.
Non, je voulais être prêtre, sûr et certain. Je voulais être prêtre et moine missionnaire. Ça, c'est parce que dès que j'ai rencontré Jésus à l'époque, ce que j'ai pas dit, c'est que le monsieur qui m'a annoncé l'évangile, j'étais un baptiste non charismatique. Après, j'ai rencontré donc des catholiques charismatiques, m'ont fait rencontrer le mouvement des hommes d'affaires du pied d'évangile. Et c'est au travers des hommes d'affaires du pied d'évangile aussi que j'ai pu vivre vraiment une vraie expérience d'un baptême du Saint-Esprit très puissant qui a bouleversé ma vie. Mais entre temps, effectivement, je m'étais retrouvé dans ce petit monastère où des moines m'avaient accueilli pour m'aider, quoi, parce que il y avait encore du chemin à faire, quoi. Comme tu as dit tout à l'heure, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin qu'on m'aide. Et quand je suis arrivé, donc je les ai rejoints dans ce petit village de Buny, ben, j'étais un petit moine qui faisait des chapelets à longueur de journée avec sa petite croix, et puis il était hors de question que je tombe amoureux d'une fille. Et quand mes yeux se sont posés sur cette jolie demoiselle, eh bien,
basculé.
Ah, ça a été terrible, quoi. Donc là, j'ai eu un grand combat contre le diable. Et plus j'ai lutté, et plus je suis tombé amoureux, et jusqu'à ce que, en fait, je dois réaliser de façon tout à fait authentique que cette rencontre venait de Dieu, en fait, complètement, quoi. Et effectivement, quand je suis retourné après au monastère, après les offices, le matin, j'étais dans l'oratoire et le temps s'est arrêté. J'ai entendu une cascade et une voix dans cette cascade qui a dit « Je te veux tout entier ». Et pour moi, ça a été très, très clair. J'ai compris que sans cette personne dans ma vie, j'étais qu'à moitié, quoi. J'étais pas complet, quoi. Et effectivement, les années qui ont après découlé, ça a été une... Je sais que je ne me suis pas du tout trompé.
Mais c'est mieux d'en arriver à la conclusion aujourd'hui dans l'émission. Merci.
Effectivement.
Mais toi, Emmanuel, entre-temps, donc, tu rencontres...
Donc, je rencontre Rémi. Moi, je suis chrétienne, mais de tradition. Mm-hmm. J'ai pas encore donné ma vie à Jésus. Je ne sais même pas qu'il faut, à un moment donné, s'approcher de ce Dieu merveilleux et de lui soumettre notre vie et de recevoir tout ce qu'il a pour nous. Je n'avais pas du tout conscience de ça. Et donc, j'ai vu vu ça en quelques personnes de ce groupe, mais ils sont partis en fait. Ils ont là, les vacances, c'est un temps, et quand ils sont partis, j'ai eu l'impression qu'ils partaient, donc avec avec vie, bien sûr. Ah, ils partaient avec ma vie, avec mon espérance, avec ce que j'avais semblé toucher un peu de bonheur en une semaine. C'est parti avec eux, et là, j'avais un désespoir en moi qui s'est accru. Ce que je vivais déjà un peu de un peu taciturne, de tristesse, où je me sentais pas forcément très épanouie. Alors là, c'était carrément, c'était décuplé en fait, voilà. Donc, je me suis surprise moi-même parce que j'avais pas l'impression d'être quelqu'un de très battante qui prenait les choses en main. Et là, j'ai pris un billet de train en fait pour partir les retrouver le mois suivant en région parisienne. J'étais jamais allée, j'avais jamais pris le TGV, j'étais jamais sortie de mon petit village. Mes parents ont dit oui, ça c'est le premier miracle, parce que quand même, j'avais tout juste 18 ans. Enfin, il y avait aucun moyen de communication, de se dire tu vas bien, t'es bien arrivée. Et finalement, il y a une histoire d'amitié qui est née avec ce groupe. Ils sont venus en vacances plusieurs fois, et puis vraiment ils parlaient de leur foi, hein, Rémi, Christian, enfin plusieurs autres. Et même moi, je n'avais pas encore fait cette démarche. Mmh. Et je suis tombée amoureuse de Rémi. Voilà, à force de se connaître, de parler, etc. Et on est tombé en fait très amoureux, et tellement amoureux finalement que ça devenait presque
toxique,
puisqu'il y avait une espèce de passion qui était là, mais quand il n'y a pas le Seigneur avec, ça peut être aussi même destructeur, puisque moi j'avais quand même un caractère vraiment... on nous disait d'ailleurs souvent... Hein, si vous voulez rater une soirée, vous invitez Rémi et Manu.
C'est
horrible. Hein, c'est nous qui en avons déduit cela. Les gens nous l'ont pas dit, mais
il y
effectivement.
Avait de l'attention, ouais.
Et ça venait beaucoup de moi quand même, hein, parce que j'avais cette tendance.
Ah, enfin tu.
Après 29 ans, c'est pour Rémi, c'est dit.
Non, la vérité, tu récoltes ce que tu sèmes aussi.
Non, je faisais beaucoup la tête en fait pour un truc de rien du tout qui pouvait se passer, qui pouvait dire quelque chose ou faire quelque chose. Ça y est, je me fermais comme une huître, je faisais la tête, et puis c'était fini quoi. Et donc c'était un peu ça notre relation. Donc c'était pas viable quoi, et c'était pas constructif, et ça, je me disais mais en fait ça mènera nulle part, quoi. Donc, j'avais déjà connu un ou deux garçons avant, et je tombais amoureuse sincèrement, vraiment, et j'avais l'impression à chaque fois que c'était l'homme de ma vie. Puis un matin, tu te réveilles, puis t'as plus rien, quoi. Tu te sens vide, tu te dis, non, cette personne-là, c'est pas possible, en fait, je peux pas m'engager. Mmh. Donc, du coup, le mariage, finalement, j'y croyais pas. Je me disais, mais je peux pas m'engager dans le mariage. Je peux pas m'engager avec Rémi dans le mariage, puisque si un matin, je me réveille, et puis qu'à nouveau, j'ai ce sentiment de vide en moi, c'est pas possible, quoi.
Mmh. C'est vrai que moi, je n'acceptais une relation avec toi que dans l'optique d'un mariage. Il n'y avait pas de copinage ou d'essai, c'était tout ou rien en fait. Et ça, ça venait te chercher aussi. Je me souviens très bien que je te disais, est-ce que tu m'aimes pour toujours? Et comme tu ne savais pas y répondre. Moi, ça me mettait une pression aussi. Et ça te mettait une pression. Et effectivement, tant que tu n'avais pas décidé dans ton cœur que tu m'aimerais pour toujours, c'était hors de question qu'on puisse bâtir. Et en même temps, cette passion m'avait fait perdre de vue Jésus premier dans ma vie. Mmh. Et il avait pris un peu la seconde place. Et ça avait été très destructeur. Parce qu'effectivement, après, il y a eu des choix de vie comportementales qui, en fin de compte, ont été très destructeurs. Jusqu'à ce qu'en fin de compte, on ait... moi, j'ai décidé de rompre.
Il a décidé de rompre. Alors là, quand il m'a dit ça au téléphone... C'était inimaginable, en fait. Alors, on habitait loin l'un de l'autre, hein. On était à plus de 500 kilomètres. Et là, pareil, j'ai dit non, c'est pas possible, quoi. Je sais pas si c'était par orgueil, il peut pas me faire ça, ou de me dire, je sais pas. Donc, j'ai pris un billet de train à nouveau, là, et là, je suis partie. Et j'ai débarqué chez des amis, et Rémi savait pas que je venais, en fait. Mm-hmm. Hein. Et puis, je voulais qu'on parle, ça pouvait pas se faire comme ça par téléphone, etc. Et dans ce week-end-là, où je suis venue, c'était mon week-end de salut en fait. Mmh. Là, j'étais presque au pied du mur de ma vie, de mes choix, de mes sentiments, et j'ai vraiment réalisé qu'il me me manquait. Amen. Ce quelque chose que je voyais dans les autres, dans les comportements qu'ils avaient les uns avec les autres, dans cet amour qui dégageait, qui n'était pas humain finalement. Et là, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Vraiment, j'ai fait ce pas de dire à Jésus, oui, ce Jésus, pourtant, j'avais fait tout mon parcours de communion, de confirmation, communion solennelle, toutes ces choses-là, par tradition, par respect. Mais finalement, j'avais pas la vie, en fait. J'avais pas cette vie abondante, j'avais pas tout ce que je sais maintenant qui vient des projets de Dieu pour nous, ce qui est écrit dans la Bible. Et j'ai donné mon cœur au Seigneur et ça a fait toute la différence.
Et là, il y a vraiment, t'as senti un avant et un après.
Il y a eu un avant et un après. J'ai vraiment, alors ça s'est fait en plusieurs étapes. Hein. J'ai été invitée après avoir ce week-end-là. Donc du coup, j'ai donné mon cœur au Seigneur. On a aussi, on s'est engagé mutuellement aussi. Et après, j'ai été invitée dans mon village par des amis aussi et qui m'ont invité à un feu de camp où il y avait un évangéliste qui était là. C'était vraiment incroyable que dans mon village, dans ma région, je n'imaginais même pas que ça existait. Où là, vraiment, il y a eu un appel au salut où vraiment j'ai donné mon cœur au Seigneur.
Et là, juste rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, mais après tout ça, vous êtes tous les deux nés de nouveau et tout. Et vous partez, vous allez à Lourdes, mais finalement, vous êtes invités à une autre retraite. Sur le chemin,
on nous invite,
et
voilà.
Et là, ça a été vraiment une semaine, quelques jours aussi.
C'est ça, on est arrivé donc dans ce camp, donc sur notre passage pour aller à Lourdes. Rémi voulait absolument que j'aille là-bas. Et puis là, on a découvert, voilà, on est arrivé. Alors, on aimait le Seigneur, Rémi surtout, parce que lui était vraiment croyant né nouveau bien avant moi. Moi, ça faisait quelques jours, mais on avait déjà des relations, on va dire, hors mariage. Donc, on était vraiment, on fumait beaucoup, enfin, beaucoup de choses. Et on est arrivé dans ce camp chrétien. J'imagine, on a dû nous voir comme les extraterrestres. On dormait dans la même tente. On était, enfin, bon, bref. Et puis, il y avait ces réunions. Moi, je ne comprenais rien du tout. C'était un langage très chrétien, évangélique, d'intercession. On parlait des mots comme ça. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et un matin, vraiment, j'ai quitté cette tente où vraiment je comprenais rien. Et j'ai entendu dans ma tente des cris. Et je reconnais que c'est Rémi qui est en train de crier.
Tout le chapiteau, ouais.
Et j'imaginais qu'on le torturait, qu'on lui faisait des choses terribles. Et finalement, non, je le vois arriver une demi-heure, trois quarts d'heure après. Je vois quelqu'un de nouveau venir vers moi, quelqu'un de paisible, de joyeux. Et il m'annonce qu'en fait, il a eu ce qu'on appelle aujourd'hui hein, des délivrances en fait, et de choses en fait qui le tenaient hein, dans son enfance, de choses aussi d'occultisme, de pratiques aussi qu'il avait.
Aussi, t'as vécu des
délivrances. Et dans la semaine qui a suivi, c'est incroyable. Voilà, j'ai vécu moi-même des délivrances, ne sachant vraiment pas que ça pouvait exister. Et notre vie a été transformée, reçu baptême du Saint-Esprit.
On a eu une rencontre tangible.
Vraiment.
Avec la puissance du Saint-Esprit.
On a été délivrés du tabac, et là, on a pris l'engagement de se marier. De mettre vraiment notre
photo,
vie en règle.
De votre mariage, on va sortir les archives.
Les archives, d'accord.
Rémi et Emmanuel, oh, vous êtes mignons.
Ouais. Voilà, c'était le 1er décembre.
C'est bon, il y avait la photo en plein écran, on vous a pas vu.
Comment ne pas tomber amoureux d'une fille comme
ça, oui, t'avais l'air totalement déjà amoureux d'elle. Et c'était donc il y a presque 29 ans.
29 ans. Mais,
ouais. Ce que je retiens, entre autres, de l'histoire, c'est que vous êtes tombé amoureux, mais t'as dû tomber amoureuse de Jésus avant.
C'est ça.
Et toi aussi, t'as dû laisser toute la place à Jésus. Et c'est un des. Ben, on va voir, on va en parler tout au long de la semaine, mais c'est vraiment le pilier aussi.
Le pilier.
Du mariage. Parce que notre fondement, c'est Jésus-Christ.
C'est l'Éternel qui bâtit la maison, voilà. C'est ça. C'est vraiment le socle de notre vie, en fait. Je sais que sans Jésus, on n'aurait pas pu tenir. Mm-hmm. On n'aurait pas pu tenir.
En tout cas, demain, on va continuer d'en parler. Demain, vous allez nous parler aussi de vos différences, parce que peut-être que vous ne l'avez pas encore remarqué, ou peut-être un peu dans l'émission, mais ils sont très différents. Ils sont très différents, et quelquefois, les différences peuvent séparer, peuvent diviser, mais on va découvrir comment ils ont réussi et comment ils réussissent encore aujourd'hui à faire de leurs différences des forces pour pouvoir être complémentaires, être tout entier, se donner tout entier au Seigneur. Alors, on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.